si vous voulez vous tourner avec moi dans le livre des rois au chapitre 13. Petit rappel, le royaume que David avait commencé, que Saül avait commencé, puis David et puis Salomon, s'était retrouvé divisé à la mort de Salomon entre deux royaumes, le royaume de Juda, qui regroupait deux tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et au nord, le royaume d'Israël, avec notamment la tribu d'Éphraïm et les autres neuf tribus qui constituaient ce royaume du nord. La capitale de Juda, c'était Jérusalem. La capitale d'Israël, c'était Samarie. Nous alternons dans le livre des rois, le premier et le deuxième livre des rois. L'accent se porte sur le royaume de Juda, le royaume du nord, et puis le royaume d'Israël, Juda, le royaume du sud, et puis Israël, le royaume du nord. Il y a une certaine alternance, mais on sait que la Bible va se focaliser. Aujourd'hui, on dirait qu'elle zoome de plus en plus sur Jésus-Christ. Et donc, dans la suite de l'Ancien Testament, on va voir que le zoom se porte davantage sur la tribu de Juda et sa descendance jusqu'au Messie, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Lisons là, nous, dans ce chapitre 13, on va zoomer sur le royaume du Nord, le royaume d'Israël. Lisons ensemble à partir du verset 1. La 23e année de Joas, fils d'Ahazia, roi de Juda, Joas, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha en imitant les péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël, et il ne s'en écarta pas. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent. Joas implora l'Éternel. L'Éternel l'écouta, car il avait vu l'oppression d'Israël depuis que le roi de Syrie opprimait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les Israélites échappèrent aux mains des Syriens et habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Mais ils ne s'écartèrent pas des péchés que la maison de Jéroboam avait fait commettre à Israël. Ils s'y livrèrent aussi, ils suivirent cette voie-là, et même le poteau d'Achéra restait dressé à Samarie. L'Éternel n'avait laissé comme troupe à Joas que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actes de Joas, tout ce qu'il a fait et sa vaillance, cela est écrit dans les livres des chroniques des rois d'Israël. Joas se coucha avec ses pères et on l'ensevelit à Samarie. Son fils Joas régna à sa place. Description de la vie d'un roi. Vous souvenez que le prophète Élisée avait accompli ce que Dieu avait demandé au prophète Élie, à savoir de oindre le roi Jéhu, un certain Jéhu, comme roi d'Israël. Et ce roi Jéhu avait pour mission de nettoyer la dynastie d'Israël des descendants du roi Omri, qui avait donné naissance au roi Achab, un très mauvais roi marié à Jézabel, une très mauvaise reine, fils d'un prince de Sidon, qui avait elle aussi introduit l'idolâtrie en Israël avec Astarté et Baal. Et le roi Jéhu avait commencé à faire cela. Mais en fait, il faut savoir, c'est facile, à Israël, en Israël, au royaume du Nord, il y a eu zéro bon roi. Jéhu, c'était le roi qui a été le mieux, mais on a vu dans les semaines et les chapitres précédents qu'il avait mal terminé, qu'il avait laissé les hauts lieux où se perpétrait de l'idolâtrie parce qu'il n'avait pas une relation personnelle avec le Dieu, le vrai Dieu, l'éternel, le Dieu d'Israël, qui est notre Dieu aujourd'hui en tant que chrétien, le vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et donc c'est facile, si vous pensez au royaume du Nord, rien de bon. À Juda, il y a eu quelques bons rois, mais il est dit que c'est une triste description de la vie d'un homme. Il a régné pendant 17 ans et verset 2, qu'est-ce qu'il a fait ? Résultat des courses, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous aussi, un jour, on pourra résumer, Dieu résumera peut-être votre vie d'une courte phrase. Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ou il a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons le bénéfice de la nouvelle alliance et faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, c'est en fait simplement rejeter, persévérer dans le rejet de Jésus-Christ. Et faire ce qui est bien, c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur. Mais là, il a imité les péchés de son ancêtre, le roi Jéroboam, celui qui s'était séparé du roi, qui avait causé la division du royaume de Salomon. Au sud, il y avait le roi Roboam, ou en anglais on dit Rehoboam, qui s'était concentré donc sur les deux tribus de Juda et de Benjamin. Mais ce roi Jéroboam, il avait pris avec lui une dizaine de tribus. Et vous avez entendu parler, Jésus dit que ce que Dieu recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Une bonne façon pour vous d'approfondir votre pensée lorsque vous lisez la Bible, le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, c'est surtout sur des passages bien connus comme cela, c'est de réfléchir a contrario. Alors je sais que c'est le mot latin, ça veut dire réfléchir en renversant un peu la logique ou les termes. Alors je sais qu'en France, on est très fort pour le contrarier. On est des rebelles. On est connus dans le monde entier. Nos amis se moquent gentiment de nous en disant « Ah, il va peut-être y avoir des grèves. » On est toujours prêt à dire « ça va pas ». On dit « non » avant d'avoir compris ce qu'on nous propose. Mais ce que je veux dire par raisonner à contrario, c'est que lorsqu'il est dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, ça veut dire que Dieu ne recherche pas des gens qui font le contraire. Dieu ne recherche pas des adorateurs ou des moqueurs, mais des adorateurs, disons que ce soit au premier temps, des adorateurs qui l'adorent dans la chair et dans la fausseté, dans le mensonge. Et en fait, ce que Jéroboam avait institué, c'était pas vraiment une idolâtrie. C'est lui qui avait établi des autels pour éviter que son peuple ne retourne à Jérusalem pour adorer le vrai Dieu selon les prescriptions de la Torah, des cinq premiers livres de la Bible. Il avait Il s'était dit que c'était dangereux pour son royaume si les gens reprenaient le contact avec le royaume du Sud, avec Jérusalem. Donc il s'était dit, on va instituer un culte avec des autels en or à Dan et à Bethel, au nord et au sud de son royaume. Et c'était toujours dans l'idée d'adorer le vrai Dieu, mais c'était l'adorer de façon plus confortable. C'était pour que les gens n'aient pas à faire tout le voyage, à faire dépenser les frais de voyage pour aller jusqu'à Jérusalem. Bref, c'était plus pratique, c'était quelque chose qui convenait mieux aux gens. Mais ça, c'était la fausseté, c'était mauvais, c'est pas ce que Dieu avait demandé. Et il l'adorait en fait dans la chair. Dans la chair, c'est la vieille nature, c'est plus confortable. Pourquoi venir au culte alors qu'on peut écouter le message tranquillement chez soi ? On peut regarder la télévision, voir des messages à la télévision. Et puis en plus, il y a tellement d'hypocrites dans l'église. Moi, j'y suis allé à l'église et j'ai vu que des hypocrites. Dommage que vous n'êtes pas passé devant un miroir, monsieur ou madame. Nous sommes tous des hypocrites dans notre vieille nature. Mais ce roi Jéroboam avait donc institué, il avait fait commettre des péchés à Israël. Jésus avait des paroles terribles lorsqu'il disait que personne d'entre vous ne fasse pécher l'un de ses petits, parlant des enfants, mais ça peut être aussi de faire pécher un frère ou une sœur. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une meule en pierre et qu'on le jette dans l'océan. Vous avez peut-être vu déjà des meules en pierre. Aujourd'hui encore, il y a dans les foires dans la région, il y a des producteurs d'olives qui ont des moulins à olives, vieux style, avec des grosses pierres qui roulent. Et vous savez que si on vous met ça autour du cou et qu'on vous jette dans l'eau, même si vous êtes un très bon nageur, vous n'allez pas aller bien loin pour revenir à la surface, vous allez périr. Et donc c'est quelque chose de terrible que Jéroboam avait commencé à faire pécher les autres. Et souvent on pense que notre péché n'affecte que nous-mêmes, mais en fait, il faut savoir que le péché affecte toujours nos relations avec les autres, et il affecte les autres. Et la colère de l'Éternel s'était enflammée contre Israël. Ils en étaient encore aux promesses de Deutéronome que si vous respectez Dieu et vous faites sa volonté, il vous bénira. Par contre, si vous êtes en dehors de sa volonté, il va devoir vous discipliner. Et c'est ce qui s'est passé. La discipline, c'est qu'il les a livrés entre les mains du roi de Syrie qui s'appelait Hazaël, et puis dans les mains de son fils Ben-Hadad, c'était en fait Ben-Hadad le troisième probablement, et ils sont tombés dans l'esclavage. Et c'est vrai que c'est une très belle illustration du fait que lorsqu'on s'adonne au péché, lorsqu'on est vaincu par le péché, on devient esclave du péché. Jésus nous avait mis en garde dans Jean 8, 34 notamment. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Quiconque commet, c'est de façon courante. Quiconque pratique le péché devient un esclave du péché. Le problème avec le péché, c'est qu'on en devient accro. C'est comme une addiction. Jésus et la Bible nous en parlent 2000 ans avant qu'on ait inventé les psys. que le brave docteur Freud ait commencé à faire ses théories humanistes et humaines avec leurs limitations. Maintenant, on parle en psychologie d'addiction, de comportement compulsif. Jésus nous disait déjà que le péché, il est une addiction. Et nous sommes au bénéfice de la croix. Jésus est mort pour nos péchés. Nous pouvons être pardonnés si nous acceptons ce que Jésus a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour nous, en laissant Jésus se crucifier sur la croix pour nos péchés. Mais il n'empêche, le péché va nous faire du mal, il va rompre notre communion avec Dieu. Et en fait, quand on y a goûté, on s'aperçoit que c'est la plus belle des choses. La communion intime avec Dieu, l'approbation de Dieu sur notre vie, même si on a des échecs, si on a des difficultés, si on a des maladies, des chagrins, des deuils, le fait de savoir qu'on a la conscience en paix devant Dieu, c'est le plus beau des trésors. C'est quelque chose qui ne vaut vraiment pas la peine d'être compromis par le péché. Et pourtant, en dehors de Jésus, nous sommes faibles, notre nature est faible. Et le péché a l'attrait de la satisfaction immédiate. Si le péché n'avait pas une rémunération, en quelque sorte, s'il amenait pas quelque chose qui nous plaise, Satan ne pourrait pas nous tenter. Mais Satan nous tente parce qu'il sait que nous avons envie de cette satisfaction immédiate. Comme Ève qui, dans le jardin, voulait être aussi grande que Dieu et voulait connaître et ce que Dieu connaissait, le bien et le mal, et à manger de ce fruit. C'était le premier rébellion contre la volonté de Dieu, avec toutes les conséquences que l'on connaît. On dit des fois que un incroyant ne peut pas prier Dieu. Je l'ai peut-être dit déjà, on dit que la première prière qu'un incroyant peut faire, c'est de demander à Dieu de le pardonner. Mais là, ce roi Joas n'était pas vraiment croyant. Il avait une foi, on dirait, sociale, sociétale. Il était le roi d'un pays qui avait eu des rois croyants, et donc mais il n'avait pas vraiment cette profonde relation avec Dieu. Et pourtant, il implore l'Éternel devant la condition, devant l'esclavage. Il implore l'Éternel et l'Éternel répond. Il l'écoute. Et donc, c'est un contre-exemple où quelqu'un qui n'appartient pas vraiment à Dieu prie et Dieu répond. Mais, notez bien la précision, Dieu avait vu l'oppression d'Israël depuis que le roi de Syrie opprimait Israël. Fidèle à sa promesse pour son peuple, Dieu s'était laissé fléchir et en fait les pleurs et les prières de Joas n'auraient peut-être pas été nécessaires. Ce qu'on peut dire, c'est que Dieu n'a jamais l'obligation de répondre à la prière d'un incroyant. Par contre, si vous lui appartenez, il va vous répondre, peut-être pas immédiatement. Il va vous dire oui, non ou pas tout de suite. Et puis l'Éternel a répondu en donnant un libérateur à Israël. Les Israélites échappèrent aux mains des Syriens et habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Ils ont retrouvé la tranquillité. Dieu les a libérés. Alors vous savez tous qui est ce libérateur ? C'était qui ? Non, c'est un piège. En fait, c'est un libérateur inconnu. Il y a la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris. Là, il y a le libérateur d'Israël inconnu. Il n'est pas précisé. parce qu'en fait, toute la gloire appartient à Dieu. Et bien souvent, il y a des anonymes dans la Bible qui sont grandement utilisés par Dieu. Et ce qui compte, ce n'est pas d'être célèbre, mais c'est d'être utilisé par Dieu. Donc peut-être vous dites, je fais tant de choses pour le Seigneur. Je viens travailler le samedi, faire le ménage. Personne ne le sait. J'en ai marre. Non, le Seigneur le sait et c'est la chose la plus importante. Il était conscient de qui était ce libérateur. Alors là, bien sûr, c'est typique. Lorsqu'il y a un point qui n'est pas précisé, les commentateurs s'en donnent à cœur joie, j'allais dire à livre joie. Il y a plein d'hypothèses. Une hypothèse, c'est peut-être qu'il a utilisé l'empire assyrien. Il y avait la Syrie et puis le royaume d'Assyrie ou l'empire d'Assyrie qui a finalement mis fin au royaume syrien. Ça peut être prêté à confusion, les Assyriens et les Syriens. Donc c'était peut-être un peuple ou c'était peut-être que c'était un autre roi ou un des prophètes, peut-être que c'était Élisée lui-même, peu importe. L'Éternel répond et libère son peuple. Verset 6, mais il persévère, indécrottable. C'est l'histoire du peuple de Dieu dans le temps, au temps des juges. Il y avait un libérateur, quelqu'un qui inspirait un retour à Dieu. Dieu se laissait fléchir, libérer son peuple. Et puis une fois que les choses allaient bien, on laissait faire, on retournait aux péchés habituels. Et là, de la même façon, il continue à adorer Dieu de fausse façon, dans la fausseté et dans la chair, en allant au temple institué par Jéroboam. Il y avait même un poteau d'Achéra qui était dressé à Samarie. Ça, c'était le culte d'Achéra, l'idolâtrie d'une déesse de l'immoralité qui avait été instituée en Israël par la reine Jézabel. Il y avait encore tous ces signes d'idolâtrie qui étaient présents dans ce royaume. L'Éternel n'avait laissé comme troupe à Joas que 50 cavaliers. C'était rien du tout. Il y a une époque sous David où ils étaient près de 2000 cavaliers, donc ils étaient presque réduits à néant et ils avaient presque plus d'armée, ils étaient insignifiants, ils étaient comme la poussière qu'on foule aux pieds. Vous n'apercevez même pas que vous marchez dessus, mais il y a de la poussière et c'était le royaume d'Israël était devenu tel. Et puis il meurt et c'est son fils qui lui succède. Lisons ensemble versets 10 à 13. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joas, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne s'écarta d'aucun des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Il suivit cette voie-là. Le reste des actes de Joas, tout ce qu'il a fait, sa vaillance et la guerre qu'il eut avec Amatsia, roi de Juda, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Joas se coucha avec ses pères et c'est son fils Jéroboam qui s'assit sur son trône, le descendant de Joas, donc qui reprend le nom du premier roi d'Israël qui avait détourné Israël du vrai Dieu. Et c'est la fin de ce deuxième roi. Vous vous souvenez, le prophète Jéhu avait reçu la promesse que sa descendance régnerait sur 4 générations. On vient de voir le roi Joas, maintenant le roi Joas, et puis c'est maintenant au tour de son fils Jéroboam qui va régner. Encore une fois, il continue dans les mauvaises voies. Et pour nous qui sommes papas, nous qui avons des enfants, pour vous qui êtes maman aussi, peut-être célibataire ou le papa n'est pas présent dans la vie de l'enfant, nous avons une terrible responsabilité. Même s'ils refusent de l'admettre, nos enfants ont tendance à nous regarder et à imiter nos attitudes, nos comportements. Et on voit là que ça a continué à travers la dynastie de Jéhu. Ils ont continué sur la mauvaise voie. Là aussi, à contrario, si vous faites ce qui est bien pour l'Éternel, il y a plus de probabilité pour que vos enfants marchent avec Dieu, pour qu'ils vous suivent dans votre relation avec Dieu. Ce n'est pas garanti, c'est toujours un choix personnel, mais c'est souvent lorsque les enfants ont vu des chrétiens de près et qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas seulement des hypocrites, qu'ils auront le désir de suivre dans vos pas. Chapitre 13, c'est le chapitre où l'on reparle d'Élisée, notre ami le prophète. Je dis ami parce que autant Élie était un type de Jean-Baptiste, quelqu'un de rude, qui ne mâchait pas ses mots, autant Élisée, c'est un type de Jésus qui est plein de compassion, qui a fait deux fois plus de miracles parce qu'il avait le désir d'être utilisé deux fois plus que son prédécesseur, le grand prophète Élie. Élisée, nous avons vu ses miracles et la façon dont il avait envoyé quelqu'un oindre Jéhu pour être roi. Et là, il est dit, verset 14, « Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée, le grand prophète qui avait sauvé des gens de la maladie, qui avait même ressuscité des personnes, on verra que ce n'est pas fini pour lui d'accomplir des miracles. Il est dit qu'il est atteint d'une maladie dont il va mourir. Ça, c'est pour préciser que la doctrine de la confession positive, c'est du n'importe quoi. La confession positive, c'est de dire que si vous avez des pensées positives, les choses vont se réaliser. C'est un peu comme la méthode Coué de l'ancien temps, où on dit je vais être guéri. Quand j'étais gosse avec ma petite sœur, on avait un raisonnement à contrario. On pensait que quand on voulait quelque chose, ça n'arrivait pas. Donc quand on voulait qu'il fasse beau, la veille au soir, on disait « il ne va pas faire beau ». On négativait pour positiver. Le mot « positiver », ce n'est pas un mot chrétien, mes amis. N'utilisez jamais ce mot lorsque vous parlez avec vos amis en disant « on va positiver ». Il faut avoir des pensées positives. Ce n'est pas chrétien. Avec Carrefour, vous pouvez positiver. Avec Carrefour, je positive. Mais avec l'Éternel, j'ai l'assurance. Amen. N'utilisez jamais ce mot qui est ressorti à toutes les sauces par les gens avec qui vous parlez de Dieu. Ah oui, c'est vrai, il faut que je positive avec Jésus, je vais essayer de lire la Bible, de positiver. Non, on ne positive pas. Dieu a posé les choses, il n'a pas besoin de positiver. Et cette confession positive qui est proclamée dans les églises, qu'on dit les églises de la foi, c'est de penser que si on a des bonnes pensées, Dieu ne va pas pouvoir accomplir des mauvaises choses. Si vous vous sentez malade, vous dites « Non, je suis positif, je ne suis pas malade, c'est un petit démon qui essaye de me faire me moucher. » Et je, au nom de Jésus, alors ça c'est très bien, encore une fois, on peut avoir adorer Dieu dans la chair et dans la fausseté. Et la confession positive, c'est dans la chair et dans la fausseté. Parce que lui-même, qui avait fait des miracles, qui avait guéri des gens, il est tombé malade d'une maladie dont il est mort. Et même les plus grands tenants de la doctrine de la foi, de la confession positive, ces grands messieurs sont morts de maladie. Ce qui est terrible, c'est que la confession de la foi, cette doctrine vous dit que si vous êtes malade, c'est que vous manquez de foi. Que vous devez imposer votre volonté, la volonté de Dieu à ces maladies et en être guéri. C'est du n'importe quoi, et je suis poli. Et bien sûr, ces doctrines ont du succès. Est-ce que vous préférez aller dans une église qui vous dit que Dieu vous aime et qu'il n'a pas garanti que vous allez échapper aux épreuves, ou une église qui vous dit « si vous venez ici, vous allez être riche et en bonne santé ». Alors on dit « mais ils sont nombreux, bien sûr qu'ils sont nombreux, mais on peut être nombreux à se tromper, et c'est malheureusement le cas. On doit les aimer, on doit leur montrer leur erreur. Et là, c'est un bon exemple. Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut. Alors c'est vrai qu'il y a des maladies qui peuvent nous toucher, qui sont pour la gloire de Dieu. La Bible nous invite à prier pour la guérison, avec toute notre foi. Et pour ceux qui sont malades, n'ayez pas peur de manquer de foi. Priez pour que Dieu vous guérisse, que Dieu guérisse les êtres qui vous sont chers. Dieu nous invite à prier. Après, c'est lui qui décide. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une dernière maladie qui va nous emporter. On a l'idée que si on suit Dieu, on va mourir dans notre sommeil à 97 ans. Après avoir tondu la pelouse, avoir nagé entre la siesta et le fort carré, en pleine forme, non, la maladie, ça fait partie du monde dans lequel nous vivons, le monde étant taché par le péché. Un des fruits du péché, c'est la mort, c'est la maladie. Et Dieu merci pour la médecine qui nous permet de combattre, et Dieu se réjouit de la médecine. Et nous devons tout faire pour prier, encourager les malades et croire qu'ils vont être guéris. La prière du juste a une grande efficace. Jacques 5 nous dit de si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens pour qu'ils prient ensemble, pour pas qu'il y en ait un qui dise « ah, c'est moi qui l'ai guéri ». Ensemble, on prie pour la personne malade en l'oignant d'huile, comme un symbole de l'Esprit-Saint qui peut guérir et qui peut enlever la maladie. Dieu sait ce qui se passe. Bien souvent, les médecins sont impuissants, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils peuvent vous dire que c'est fini alors que ce n'est pas fini. Ils peuvent vous dire qu'il n'y a pas de problème alors que le lendemain, ça a été le cas de ma maman. Le docteur m'avait dit la veille, « Oh, votre maman, elle va bien. Elle n'a pas un pied dans la tombe. » Et le lendemain matin, dans la nuit, on m'a appelé pour me demander de passer à l'hôpital. J'avais compris qu'elle était décédée. Ce n'est pas qu'ils sont de mauvais docteurs, c'est que la science humaine est imparfaite. Et le brave Élisée, il est mort. Ça ne veut pas dire qu'il a son ministère a cessé. Et Joas, donc c'était le descendant de Joas et le papa de Jéroboam le second, il était désespéré parce qu'il reconnaissait qu'en la personne d'Élisée, il y avait une grande aide pour le pays. Et il l'appelle « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». C'est pour une façon de reconnaître comme Élisée l'avait dit au prophète Élie lorsqu'il avait été emmené sur un char. Là, il n'a pas été emmené sur un char. Il est mort d'une maladie dans son lit. C'était une façon de reconnaître que plus important que les armes, que l'économie, que la puissance économique ou la puissance militaire d'un pays, un prophète, quelqu'un qui vit pour Dieu, qui parle de Dieu, qui annonce Dieu, est plus important qu'un pays. On parle beaucoup de l'économie en France, des problèmes. On est toujours la cinquième, peut-être la sixième maintenant, économie du monde. On est fiers, on pense qu'avec ça, on va pouvoir continuer à bien vivre. Mais la vraie solution, c'est le retour à Dieu de notre pays. C'est que les gens reconnaissent qu'il y a un Dieu tout-puissant qui les aime, qui veut être connu par eux, qui veut être servi par eux, et nous avons ce message à transmettre. Et puis, on va terminer par cette histoire un peu bizarre. C'est vraiment une histoire surprenante. Si vous l'avez déjà lue, vous vous rappelez sans doute de cette histoire en vous disant que vous ne l'aviez jamais très bien comprise, peut-être. Élisée veut encourager le roi qui se dit « Qu'est-ce qu'on va faire sans toi ?» Élisée, verset 15, lui dit « Prends un arc et des flèches. » Il va chercher un arc et des flèches. Puis Élisée lui dit « Bande l'arc avec ta main. » Quand il l'eut bandé de sa main, Élisée posa ses mains sur la main du roi et dit « Ouvre la fenêtre vers l'est. » Il l'ouvrit. Élisée dit « Tire. » Alors il tira. Élisée dit « C'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. » Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à les exterminer. » Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Alors il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu, une réaction bizarre, fut saisi d'indignation contre lui et dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. » Maintenant, tu ne les battras que trois fois. Élisée mourut et on l'ensevelit. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Il arriva qu'on ensevelissait un homme et voici qu'on vit une de ses troupes. On jeta l'homme dans la tombe d'Élisée. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée. Il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé les Israélites pendant toute la vie de Joas, mais l'Éternel leur fit grâce, il eut compassion d'eux, se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, il ne les a pas rejetés de sa face jusqu'à présent. Hazaël, roi de Syrie, mourut et son fils Ben-Hadad régna à sa place. Joas, fils de Joas, reprit les mains de Ben-Hadad, de la main de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël de la main de son père Joas pendant la guerre. Joas le bâtit trois fois et recouvra les villes d'Israël. Là, on voit que même dans sa mort, le prophète continue à faire des miracles. On ensevelit quelqu'un, il y a une attaque, donc ils ouvrent le premier tombeau venu, et il se trouve que c'est le tombeau d'Élisée, et au contact d'Élisée, l'homme enseveli reprend vie. C'est l'origine du culte des reliques dans l'Église catholique. Si vous allez à Tourrette-sur-Loup, vous allez dans l'église, vous pouvez voir la momie de Sainte Félicité. Et Sainte Félicité, elle a des vertus particulières. Si vous venez de prier devant elle, elle va sans doute faire quelque chose pour vous ou rien faire. Mais ce qui est étrange, c'est cette histoire d'arc et de flèche. Et le fait que lorsque le prophète dit au roi de Joas de tirer, il lui dit de frapper contre terre. Alors là, on peut penser que c'est bizarre, il va prendre les flèches qu'il a, il va les frapper. En fait, on pense que ça veut dire les envoyer par la fenêtre ouverte et les faire se planter, se ficher en terre. Et le roi s'arrête au bout de trois flèches. On ne sait pas trop pourquoi, on peut supposer qu'en fait, il a manqué de foi. Et ce thème de notre responsabilité dans notre participation au miracle de Dieu, c'est un des enseignements de la vie d'Élisée. Vous vous souvenez, dans 2 Rois 3:16, à un moment, il avait dit aux soldats de creuser des tranchées et que il y aurait de l'eau qui remplirait ces tranchées, qu'ils pourraient, abreuver leurs chevaux, et que leurs ennemis penseraient avec le soleil que c'était du sang, ils auraient peur et se détourneraient. Mais là, en fait, si on creusait un petit trou, il était rempli d'un peu d'eau. Si on creusait un grand trou, il était rempli de beaucoup d'eau. Et quelque part, le résultat du miracle dépendait de votre foi. Un exemple encore plus connu, c'est le miracle de l'huile de la veuve. Cette veuve qui était à deux doigts de la faillite, qui n'avait plus rien, il lui restait juste un peu d'huile, et Élisée lui dit, va chercher des flacons, va chercher des récipients et verse l'huile. Et là aussi, il est dit que l'huile a cessé de couler lorsque le dernier des récipients a été offert, a été mis dans cette situation de recevoir le filet d'huile qui coulait de cette petite fiole où elle n'avait qu'un peu d'huile. Là aussi, il disait, va chercher autant de Tupperware que tu peux en trouver. C'est elle qui a limité le miracle de Dieu. Et ça, c'est une leçon très importante pour nous tous. Si vous devez retenir qu'une chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Vous pouvez avoir dans votre vie autant de Dieu que vous le voulez, et aussi peu de Dieu que vous le voulez. C'est un prédicateur qui avait parlé devant le célèbre Moody, D.L. Moody, qui disait « On n'a pas encore vu ce que Dieu pourrait faire avec un homme qui lui soit entièrement consacré. » Et D.L. Moody avait dit « Par la grâce de Dieu, je veux essayer d'être cet homme-là. » Et Dieu l'a puissamment utilisé. Jusqu'à ce jour, il y a encore des éditions, il y a encore une école biblique, etc. Mais ça, sachez que votre relation avec Dieu, elle peut être aussi forte et aussi proche, aussi intime que vous le souhaitez. Vous êtes le seul obstacle à votre propre relation avec Dieu. C'est à la fois terrible et formidable. C'est formidable parce que si vous avez soif d'une plus grande relation avec Dieu, rien ne peut empêcher votre relation avec Dieu de grandir et d'être forte, de porter du fruit, d'être fantastique. Et c'est à la fois terrifiant parce que si vous avez peu de désirs, ne vous étonnez pas que votre vie ne porte pas de fruits, que votre vie soit terne, qu'il n'y ait pas de grandes choses accomplies pour le royaume de Dieu. Cette idée de la veuve qui apportait des pots vides, demandant à être remplie de l'huile, symbole du Saint-Esprit, c'est ce qui a encouragé le pasteur Nick Long à Ziegen à encourager le démarrage d'autres églises. Envoyer quelqu'un ouvrir une église, c'est comme envoyer un pot que le Saint-Esprit va pouvoir remplir et recouvrir toute l'Europe, toute la France. Mais si nous avons limité par avance Dieu, à ce moment-là, il ne va pas pouvoir faire tout ce qu'il voudrait faire. Ce n'était peut-être pas clairement exprimé, mais le prophète attendait de la foi de la part du roi. Il avait tiré une flèche, il lui avait dit « c'est une flèche de salut de la part de l'Éternel ». Une flèche, c'est une victoire contre les Syriens. Maintenant, prends tes flèches et envoie-les. Et lui s'était contenté d'une consécration à 50%. Est-ce que votre consécration, elle est à 50%? Elle est peut-être plus basse, à 10%? Ou est-ce qu'elle est à 110%, à 120%? De cette consécration, de ce désir de vivre pour Dieu et d'être utilisé par lui, d'être dans la sainteté, ça fait mal des fois d'être nettoyé pour être utilisable par Dieu. Mais de cette consécration va dépendre le fruit de votre vie. Et bien sûr, quand on parle de flèche, on a tout de suite une analogie avec la prière. Parce que tirer une flèche, ça demande un effort, ça demande une direction. Il faut être instruit dans la prière. La parole nous instruit dans la prière. Il faut de l'aide de Dieu. Seigneur, apprends-nous à prier. Il faut tirer lorsque la fenêtre est ouverte. Il y a des moments où on peut prier, puis des moments où il est trop tard pour prier. Nous avons encore la liberté de pouvoir évangéliser en France. Prions pour que l'évangélisation soit fructueuse. La prière demande de la foi parce qu'on ne sait pas comment exactement la réalisation va se passer. On a peut-être notre idée, mais Dieu a un autre plan et c'est par la foi qu'on envoie nos prières. Il faut, pour que la prière soit efficace, qu'elle soit répétée, que l'on persévère dans la prière. Là, il a arrêté au bout de 3 flèches alors qu'il avait tout un carquois, ou au moins 6. Et ne pas tirer, ça va faire du mal aux autres. Encore une fois, si nous ne prions pas, si notre vie personnelle de prière n'est pas forte, nous allons causer du tort aux autres. Et la réaction du prophète, c'est la colère. Il dit, mais tu vois pas, il fallait continuer de prier parce que c'est une bataille contre le péché. Il faut continuer de prier, il faut continuer de se battre pour connaître la parole, connaître Dieu, pour accomplir votre foi. Vous devez continuer à combattre. Vous devez continuer à tirer pour accomplir davantage pour le royaume de Dieu. Parce que si vous ne combattez pas, si vous ne tirez pas vos flèches, il y en a un qui vous envoie des flèches enflammées. Ça vous rappelle quelque chose? Éphésiens 6. Le diable vous tire dessus. Votre vieille nature, le monde sont contre vous. Donc si nous ne prenons pas l'offensive, nous allons être ratatinés, écrasés. Et la conséquence de ce manque de foi du roi, c'est que ils n'ont remporté que 3 victoires. Par la suite, son fils a pu continuer et le Seigneur a eu compassion. Mais c'est un exemple. Vous pouvez avoir autant de Dieu que vous le souhaitez dans votre vie. Mais si vous vous dites, on se trouve des excuses. Je suis pas très bon pour le tir à l'arc, la prière. Je préfère faire le ménage. La prière, c'est pas mon truc. Et puis, si seulement le pasteur m'avait aidé davantage, si Élisée avait continué à m'aider, à me tenir la main, ça aurait été plus facile. Puis on sait que la prière, il y a des choses je prie pas et le Seigneur les accomplit. Donc, à quoi bon? On se trouve plein d'excuses. Mais Dieu nous demande, Dieu nous dit, creusez des trous, apportez des bouteilles vides, tirez des flèches, ne mollissez pas. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la vérité que tu nous y révèles. Et Seigneur, que ce message de notre participation à tes miracles, à ton œuvre, c'est un mystère, nous ne le comprenons pas, mais tu nous invites à nous consacrer à toi, à nous consacrer à ton œuvre, Seigneur, pour l'œuvre du royaume, Seigneur. Donne-nous bien l'idée que le seul obstacle à une plus grande relation avec toi, c'est pas la culture, c'est pas le pasteur qui n'est pas doué, c'est pas les amis qui sont pas chrétiens, c'est moi-même, Seigneur. Aide-moi à te demander mon aide pour grandir dans la foi, pour grandir dans l'œuvre pour le Seigneur, dans l'amour pour toi et pour les autres, Seigneur. Merci aussi parce que c'est une merveilleuse promesse, Seigneur. Et si nous te demandons ton aide, Seigneur, tu viens comme Élisée, tu viens tenir nos mains. Tu viens nous aider à avoir les victoires, Seigneur, et par la foi, donne-nous de penser grand pour toi, Seigneur, de ne pas te limiter. Tu vois notre pays qui est dans l'incrédulité, Seigneur. Tu veux te révéler, Seigneur. Tu veux nous utiliser. Tu veux utiliser nos frères et sœurs dans les autres églises, dans les autres villes. Sois grand, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance pour remporter des victoires, Seigneur. À tirer les flèches de la prière. À tirer les flèches de la consécration, Seigneur. À tirer contre notre vieille nature, contre Satan, contre l'ennemi, Seigneur. Tu nous as donné des armes, des boucliers de la foi et toute la panoplie, Seigneur. Aide-nous à nous en saisir et à te faire confiance pour ta plus grande gloire, Seigneur, et pour notre plus grand bonheur, celui de te servir sans restriction. Prions ces choses dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.